c'est un lieu qui a toujours été le support à un imaginaire, en fait. Un imaginaire, donc, pour les Agathois, par rapport à sa localisation en face, en vis-à-vis de la vieille ville, finalement, de la ville historique, et on le voit encore aujourd'hui. On n'a pas de construction sur le domaine, puisqu'on est en zone inondable. Donc, on est vraiment dans un dispositif paysager et urbain qui a été, donc, qui est le sien depuis 1900, en fait. Et au-delà de la ville d'Agde proprement dite, on a aussi la proximité de la voie ferrée. Et cette voie ferrée aussi a été, effectivement, par son utilisation depuis 1857, quand même, hein, c'est la grande ligne Montpellier-Toulouse, hein, voilà, qui est créée en 1857. Et Emmanuel Laurent positionne son château, sa demeure, sa maison, à côté de la voie ferrée. Encore une fois, c'est aussi le signe d'une modernité à l'époque, pour les déplacements rapides, bon, voilà, tout ce que ça implique, bien sûr. En même temps, de visibilité aussi, c'est ce positionnement, il n'est pas anodin, puisqu'il se montre, hein, voilà, tout simplement, cette modernité architecturale et technique, ben, il la montre, il la met en confrontation avec la voie de chemin de fer. Et donc, depuis 1900, c'est un lieu qui fascine tous les voyageurs, puisqu'il n'y a pas d'autre ligne qui dessert donc cet arc méditerranéen. Donc, tous les voyageurs passent par ici pour aller vers l'Espagne, vers Toulouse, vers Narbonne. Et d'ailleurs, c'est très, très, très intéressant de voir comment les gens, au moment de la restauration, qui a duré donc 6 ans, hein, entre 2017 et 2022-2023, comment les gens voyaient la transformation du bâtiment, les gens qui prenaient le train, voyaient la transformation du bâtiment au fur et à mesure de leur passage régulier, puisque beaucoup de gens vont travailler à Montpellier, à Paris, à Lyon, etc. Et donc, les gens que je connais, en tout cas, me disaient « Ah, ben tiens, on a vu le jardin en cours de construction, en cours de réaménagement. Ah, j'ai vu que vous avez fait la toiture, etc. » Signe, effectivement, que ce bâtiment, aux abords de la voie ferrée, a suscité depuis plus d'un siècle l'imaginaire de tous les voyageurs. Laurent Félix, je m'occupe de la conservation du lieu depuis une vingtaine d'années. Et là, je suis responsable scientifique, et puis donc j'assiste Gaël Capgédicant pour toutes les questions scientifiques et patrimoniales dans la direction.
Gaël Capgédicant, directrice du Château Laurent. Donc, je suis en charge de la valorisation de ce lieu et de son exploitation pour le rendre accessible à une grande diversité de publics. Alors, le Château Laurent est le témoin de l'excellence de nombreux métiers de la restauration du patrimoine et du patrimoine bâti en particulier. C'est un lieu qui a fait l'objet d'une restauration pendant près de 20 ans, en plusieurs campagnes successives, bien sûr, mais qui a mobilisé à la fois des entreprises de grosses œuvres, puisqu'on a eu l'entreprise Vinci, par exemple, avec des logiques de renforcement de structure. On est, on l'entend, au bord de l'eau, on est implanté sur une île et c'est un bâtiment qui avait tendance à bouger beaucoup, dont il a fallu renforcer les fondations. Et c'était très intéressant parce que, à travers les métiers de la restauration qui ont œuvré ici, on a redécouvert des techniques qui avaient été oubliées. On a réinterrogé aussi des innovations techniques pour les mettre à disposition d'un projet de restauration du patrimoine. Et c'est là où on a créé quelque part la rencontre entre tradition et modernité. Et c'est aussi un petit peu l'ADN de ce lieu, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des influences liées à l'antiquité égyptienne, l'antiquité classique, mais aussi un bâtiment qui est un des tout premiers bâtiments, on va dire, de prestige en béton armé.
Et donc, vous avez trois corps de bâtiment. Vous avez le corps central dans lequel on est, avec ce grand vestibule orientalisant, antiquisant, etc. Le salon de musique qui affleure au bord de la voie ferrée. Et après, l'appartement privé, dont le luxe et le raffinement contrastent avec cette mise en œuvre théâtrale qui très séduisante, hein, voilà, très séduisante. Donc voilà, on a vraiment trois corps de bâtiment mis en œuvre de façon concomitante, mais dans des esprits complètement différents. Et qui se rejoignent aussi, qui se complètent. C'est une espèce de collage, de mosaïque, c'est un lieu mosaïque en fait. Et il construit, c'est une espèce de maison-monde aussi. Là on est dans l'Antiquité, on a le côté bien sûr égyptisant avec la figure des Cléopâtre qui accueille le visiteur au bas de l'escalier. Et en même temps on est dans un esprit beaucoup plus oriental ici. L'Orient un petit peu avec ce salon mauresque, ce salon alcôve mauresque. le projet que la ville d'Agde porte, avec Gaël bien sûr, c'est le remeublement partiel de cet espace qui est le salon mauresque. Voilà, donc on a des photographies anciennes où on voit ici Emmanuel Laurent, toute sa famille, ses amis, déguisés dans des redingotes de soie, en train de fumer un petit peu l'opium, avec des yeux un petit peu révulsés. C'est le côté un petit peu sulfureux de ce lieu aussi, mais très sympathique en même temps. Et vous aviez dans ces grandes réserves de blanc qui se détachent sur le mur mine-orange comme ça, vous aviez des grands textiles d'Ouzbékistan, par exemple, qu'il avait ramené de ses voyages. Et donc, le projet, c'est aujourd'hui de refaire parler ce salon alcôve, hein, de retrouver cette ambiance dans les mois à venir ou l'année prochaine. Voilà. L'intérêt, c'est de prendre du temps aussi pour ne pas faire n'importe quoi et pas le meubler comme une boutique d'antiquité à la va-vite. Voilà, c'est ça. Donc, pour les auditeurs, il faut imaginer ce salon dans l'ambiance de Pierre Loti, le salon mauresque de Pierre Loti à Rochefort. Donc ça, c'est avec une profusion de textiles, de tapis, un miroitement des murs, la dorure, l'argenterie, enfin voilà, avec des couteaux arabisants aussi sur les murs, des instruments de musique, un décor éphémère de tente arabe, voilà, c'est ça, c'est comme, voilà, il manque plus que les chameaux, on s'y croit, voilà. Vous êtes dans l'espace, dans le nœud du château, le nœud de circulation, donc c'est l'atrium. Alors effectivement, avec ces quatre colonnes absolument merveilleuses qui sont directement extraites des mines d'Algérie. Ça aussi, la restauration, c'est comment l'étude sert le programme de travaux, donc la documentation, et comment la restauration aussi nous amène des éléments factuels sur la nature des matériaux proprement dit. Et c'est le cas donc de ces onyx roses rubanées, venant d'Algérie, donc ça on n'aurait jamais pu le savoir si on n'avait pas fait de la restauration et que des spécialistes viennent pour les identifier. La restauration nous apprend aussi que toutes ces colonnes, elles reposent sur leur propre poids, elles sont rattachées à rien du tout. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ça participe encore une fois d'une mise en œuvre de théâtre, un décor d'opéra, un décor de théâtre, puisque tous ces caissons que vous voyez, tous ces plafonds, toutes ces poutres en fait, hein, c'est l'embourbe, etc., tout ce que vous voyez, ne supporte absolument rien du tout. Tout est creux à l'intérieur. Voilà. Donc il faut imaginer ce lieu conçu, voulu et commandé comme un décor de théâtre par le propriétaire Emmanuel Laurent, qui fait appel donc à ses amis artistes, artisans, ferronniers d'art, montpelliérains, toulousains, et ensuite qui va à Paris chercher des décors un peu plus, entre guillemets, raffinés. Mais voilà, c'est une mise en œuvre qui est très très rapide en fait. C'est puisqu'il hérite en novembre ou décembre 97. En avril 98, il y a le décorateur parisien Martial Eugène Simas qui mettra en œuvre une partie de son appartement privé qui est ici. Les toitures sont posées dès 98 et 99, toiture en béton armé, donc ça va très très vite. Et après, on pense qu'il prend un petit peu de temps puisque la facturation des peintures telles qu'elles sont aujourd'hui, donc, s'effectue en mai 1901. Donc on est entre 1998 et 1901 pour avoir vraiment toute l'enveloppe, l'architecture bien sûr, et toute l'enveloppe décorative mise en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est très vite en fait. Hein. Voilà.
Alors le Château Laurent, c'est l'œuvre d'un jeune homme de 24 ans, il ne faut pas l'oublier, ce qui est assez singulier, puisqu'en général, ce genre de demeures sont plutôt des commandes de personnes, on va dire, d'un certain âge. Là, c'est vraiment un tout jeune homme qui est étudiant en médecine à Montpellier et qui va recevoir un héritage faramineux de près de 300 millions d'euros. Et on se projette nous-mêmes à 24 ans et on se dit, wow, qu'est-ce que j'aurais fait moi avec 300 millions d'euros ? Certainement pas une maison finalement. Et lui va faire une maison, mais il va faire une maison qui est le cœur de son art de vivre. Et son art de vivre, il est tourné vers la socialisation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'entourer, cultiver ses amitiés, travailler avec un monde d'artistes qu'il va mécéner, qu'il va porter. Et quand il va se retrouver ruiné, Il reste entouré en fait par l'ensemble de ses amis. Il n'est pas abandonné, on ne se détourne pas de lui, pas du tout. Et nombre de ces jeunes artistes ont fait des carrières formidables derrière. Donc c'est quelqu'un qui quelque part a réussi sa vie en ce sens où il a su cultiver à la fois un art de vivre avec évidemment des réceptions, des fêtes et on imagine plus qu'on ne sait finalement. Parce que c'est aussi un objet de fantasme sur lequel on projette, comme tous les faits historiques sur lesquels finalement l'essentiel nous échappera toujours. On n'a que des éléments lacunaires, ça et là, mais de la personne, on ne saura vraiment jamais rien, au fond. Et il faut le reconnaître, le travail d'un historien, c'est un travail d'abord d'humilité. Voilà. Mais pour autant, ça n'est pas mal de se projeter et d'essayer de comprendre aussi quels sont les ressorts et l'intimité de ce personnage, parce qu'au fond, à travers l'étude de l'histoire, on se regarde nous-mêmes. Il y a un effet quand même miroir à se dire qu'est-ce qui est essentiel dans la vie de cet homme. Et au fond, on se rend compte que l'argent n'est qu'un moyen et n'est jamais un objectif chez lui. C'est ça qui est merveilleux d'abord, qu'il n'est quelque part à travers sa trajectoire, quand il met en viager toute la partie fastueuse de son habitat et qu'il n'en garde que ce petit appartement qui est sa maison de famille, sa maison de jeunesse, dans laquelle il a intégré un raffinement absolu dans le choix décoratif, dans lequel il va continuer à recevoir ses amis, dans lequel il va continuer à vivre son histoire d'amour avec celle qu'on lui reconnaît comme étant sa femme unique, sa compagne unique. Eh bien, on se dit que cet homme-là n'a rien abandonné de ce qui lui était essentiel.
Voilà, donc là on est dans la salle de musique. Cette salle de musique assez exceptionnelle, qui, dont le regard est attiré vers la hauteur avec cet élancement des grandes baies et ces vitraux assez, ces vitraux polychromes, hein, qui, comme des grandes tiges de fleurs qui s'élèvent vers le décor plafonnant. Donc voilà, quelque chose, encore une fois, une autre ambiance. Quand je parlais tout à l'heure de trois corps de bâtiment, là, un corps de bâtiment assez d'exception. Il y a le côté chapelle en fait, hein, c'est très chapelle bien sûr. Le matin, l'hiver, parce que c'est un lieu qu'il faut voir l'hiver, puisque le soleil est très très bas, et quand le soleil se lève dans cet espace-là, il y a vraiment, encore une fois une magie, j'aime pas employer trop ce mot, le côté magique, mais il y a quelque chose qui est assez surprenant en tout cas. Voilà. Alors on parle du jour, mais c'est aussi un lieu de nuit à l'origine, puisque il faut imaginer que cet effet de dorure que vous avez dans le décor plafonnant, que vous avez également dans la résille de plomb qui vient donc enchâsser les vitraux, cette dorure ne se voit pas dans la journée. Très peu. Par contre, dans la nuit, une fois que le soir est tombé, la nuit est venue, éclairée de l'intérieur, toute la parure décorative, tout ce décor de métal doré agit complètement différemment. Donc, pour avoir vécu certains espaces la nuit, notamment les grands espaces de réception, la nuit, le Château Laurent prend une vibration complètement différente, en fait. Voilà. C'est un lieu de nuit, en fait. On le fait visiter le jour, mais il faudrait presque le voir la nuit. Voilà, c'est ça.
Alors, la musique, elle fait partie de l'expérience du lieu en ce sens où j'ai pensé le parcours musical avant même de penser le parcours de visite. C'est-à-dire que pour moi, le lieu devait se réhumaniser après 20 ans de chantier. Et donc, redonner de la vie à un lieu comme ça, ça passait par cette écoute musicale et cette imprégnation, puisque je laisse tourner la musique en boucle 24 heures sur 24. Mais parce que profondément, je suis sensible au fait d'humaniser et de donner de la sensibilité à ces espaces en y produisant de la musique en permanence, tout en m'appuyant quand même sur des sources documentaires qui témoignent de ce goût-là en particulier. et dans le cadre de la programmation, puisque après redonner de la vie au lieu, c'est aussi abonder en programmant des artistes d'aujourd'hui. C'est redonner aussi la place à cette production musicale du début du XXe siècle, mais aussi faire intervenir des musiciens en chair, en os, avec de vrais instruments non électrifiés, avec l'acoustique naturelle du lieu, dans des espaces de vie du lieu, avec des petites jauges, c'est-à-dire l'idée n'est pas de produire de la musique pour 1000 personnes, c'est de dire peut-être pour 50, 100 personnes, vivre un moment hors du temps, dans une approche sensible et dans l'émotion de cette époque-là et puis de ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu dans cet esprit-là que ce lieu, pour moi, nous rappelle, comme l'actualité le fait chaque jour, qu'on ne vit pas en dehors du monde, que le monde se déroule sous nos yeux et que nous en sommes les acteurs.
Voilà, donc là on est dans sa partie, on est vraiment dans sa partie privative qui ouvre sur l'Hérault, avec cette, en plus c'est la lumière d'aujourd'hui, enfin, la lumière est toujours belle ici, hein. Avec cette lumière très fin d'hiver et du début de printemps, donc on voit, pour l'auditeur, on voit l'eau couler au bas de ses fenêtres, voilà, c'est vraiment un panorama du matin au soir assez extraordinaire. Donc ici on est dans son salon. Un salon qu'on a récupéré, qui était vraiment très, très... il était ruiné, hein. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de plancher. Donc on est resté le plus sobre possible. On a remis du mobilier que la ville d'Agde avait acheté en 2004-2005, signé de Léon Covy, donc l'artiste auquel Emmanuel Laurent avait fait appel, l'artiste avant-gardiste de Montpellier, avec, à qui il a fait appel pour créer son mobilier au Château Laurent. On a remis simplement ce mobilier de 1904, me semble-t-il. Donc c'est la sobriété ici, avec quelques... une ponctuation de choses 1900, hein, et ce qui permet de faire l'interface dans, en termes de, pour le public, entre le décor théâtral que vous avez vu et le décor proprement dit de son cabinet de travail qui est juste devant nous. Ici. Voilà. Donc là, on est dans son espace le plus intime possible, avec ses grands rideaux de lumière, ses soieries velours, ce mobilier monumental, un univers très très poétique que vous voyez ici en fin d'après-midi. Mais le matin, c'est assez irradiant, hein, puisque encore une fois, on est à l'est. Et quand le soleil vient inonder, traverser ces deux grandes verrières, il y a là aussi, c'est la magie de la lumière qui agit, c'est la lumière colorée qui agit sur toute la parure décorative du lieu. Voilà. Ces grandes verrières sont dues, d'abord techniquement, c'est le progrès des... Gaël parlait peut-être tout à l'heure du progrès industriel, de la révolution de la fin du 19e siècle, qui permet effectivement d'avoir des verres complètes qu'on ne pouvait pas produire avant, autour de 1900. La qualité des verres permet ces grands rideaux de lumière avec une technicité complètement différente. Vous avez des verres gravés à l'acide, donc ce sont deux grandes verrières, l'une qui est très narrative ici, qu'on appelle la mer, qui a été exposée à Paris en 1896. Et ici, quelque chose de beaucoup plus synthétique, beaucoup plus abstrait. Donc voilà, ce sont des verrières qui ont été faites par Martial Eugène Simas, le décorateur des grandes brasseries parisiennes auxquelles Emmanuel Laurent fait appel, et qui vient positionner dans son appartement privé. Donc c'est un vitrail assez majestueux, avec ses arcatures un petit peu qui empruntent à l'architecture anglaise, avec ses grands feuillages qui viennent ceinturer toute la partie haute, et ses trouées aménagées dans les feuillages qui créent le bleu du ciel, en fait. Et puis dans les parties latérales, tous ces rinceaux de vignes qui viennent encadrer cette composition. Me concernant, en tout cas, ce que je retiens, c'est la partie vraiment des verres à l'acide que l'on a, donc, qui décrivent ces grandes vagues bleues et qui font penser, bien sûr, à la vague d'Okusai, le grand artiste japonais. Et donc, on a vraiment ces grandes vagues bleues traitées vraiment dans des tons de bleu très, très... C'est un bleu qui est très dérangeant presque à l'époque, hein, je trouve. C'est un bleu très très puissant, un camaïeu de bleu assez extraordinaire et sur lequel donc se détachent ces fonds blancs pour créer l'écume, etc. Donc moi, c'est vrai, c'est une des parties que j'aime beaucoup. Les dimensions, il doit faire 4 mètres de haut et 6 mètres de large à peu près. Donc c'était vraiment une verrière monumentale. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout est fixe en fait, ça ne s'ouvre pas. Donc c'est comme un tableau en fait, hein. C'est comme un tableau lumineux en fait. Alors que les autres, ce sont des porte-fenêtres qui peuvent effectivement être manipulées et ouvrir sur le balcon filant qui ouvre sur les rangs. Celui-ci, absolument pas. Voilà, donc c'est un tableau de lumière en fait. Voilà.
Alors, le Château Laurent, c'est un lieu où, en fait, se conjugue à la fois la culture et la science. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est aussi un patrimoine scientifique et technique. Il ne faut pas oublier que l'Art Nouveau s'inscrit dans la veine des arts décoratifs et industriels. Et souvent, on a tendance à oublier ce « et industriel » alors qu'il est fondateur de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est vraiment mettre à disposition d'une démarche artistique et créative une technicité, des matériaux, des innovations qui sont développées dans l'industrie. Et c'est absolument génial parce qu'on voit qu'à cette période-là, on met en place des concepts qui vont être développés pendant tout le XXe siècle, mais qui parfois vont être totalement occultés au bénéfice, on va dire, d'une forme de mondialisation qui nous fait oublier qu'en fait, bah oui, l'électricité, elle peut s'obtenir auprès de nos fleuves à travers l'électricité hydroélectrique, ce qui était le cas au Château Laurent, puisque sur les, on va dire, 180 luminaires du Château Laurent, et c'est beaucoup, hein, eh bien, on avait une alimentation via une turbine hydroélectrique implantée sur l'Hérault, que c'est un lieu qui était chauffé avec un principe antique de chaudière bois qui permettait de chauffer en fait avec des vapeurs d'eau puisqu'il y avait un système de récupération d'eau de pluie qui était implanté sur le toit, qui était connecté, qui permettait de générer des vapeurs pour chauffer le sol par un système d'aération à travers les dalles de ciment. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a aucune cheminée, il n'y a que des radiateurs en fonte. Donc on a un chauffage centralisé qui est totalement naturel, en fait. Voilà. Et qui, en outre, permet d'alimenter 3 salles de bain, dont la salle de bain absolument exceptionnelle, qui intègre elle-même une douche, une baignoire et une vasque tout à fait magnifique. C'est tout à fait novateur en 1900. Il ne faut pas oublier qu'en 1900, seuls 10% des foyers sont équipés en électricité. Donc le fait de présenter aux visiteurs dans le vestibule d'entrée 148 luminaires, quoi. C'est pas rien. C'est une preuve, une démonstration un peu de force pour montrer qu'il est à la pointe d'une technologie, mais qu'aussi il la met au service d'une démarche en fait décorative. Et il ne faut pas oublier, j'ai parlé beaucoup d'arts différents, mais il y a aussi la mode, la parfumerie, qui subissent aussi des révolutions modernes. Le corset disparaît, les grandes maisons de couture se développent, portées souvent par des femmes d'ailleurs. C'est vraiment intéressant et du coup, la parfumerie est totalement révolutionnée à l'aube du XXe siècle. Et il était important pour moi de donner aussi une sensation olfactive de ce lieu. D'abord parce que c'est une maison. Et souvent, quand on se souvient de la maison de nos grands-parents, eh bien, ce qui vient, le premier état, c'est l'odeur. Et là, l'idée, c'était aussi de fixer l'expérience des visiteurs par l'odeur du lieu, parce que cette odeur, elle raconte quelque chose. Les odeurs, elles ont aussi un récit propre. Et donc, on est parti vraiment de la biographie d'Emmanuel Laurent, des différents pays qu'il a traversés, de son époque aussi, pour travailler avec un parfumeur autour de la restitution d'une odeur.
de sa maison, voilà, qu'on ne déploie que dans le petit appartement. Donc il y a cette partie de trois pièces successives qui nous emmène chacune un peu plus près de l'intimité de ce propriétaire qui incarne si bien ce lieu.
On n'a pas parlé de l'épouse d'Emmanuel Laurent, qui était quand même Louise Blot. Alors voilà, c'est pas qu'on ne veut pas en parler, c'est qu'on a été pris dans des questionnements autres, mais c'est vrai que Louise Blot était certainement une personne, on a très peu de photographies d'elle, on a quelques photographies qui la représentent avec des costumes de scène, et on voit très bien l'aspect de la représentation de la scène, et donc l'importance du costume, de la toilette, dirait ma grand-mère, hein. la toilette en fait, et donc l'idée de la féminité qui entre avec elle, elle rentre au Château-Laurent, la féminité rentre au Château-Laurent en fait, puisqu'on est autour d'une rencontre autour de 1904-1905, et cette féminité, elle rentre au Château-Laurent, et elle va réellement, me semble-t-il, non pas forcément influencer le décor, mais elle va être une partie prenante de la vie. De ce monument jusqu'à la fin de sa vie, hein, puisqu'elle meurt en 1954, 5 ans avant lui, mais elle va avoir une part très importante dans l'art de vivre au Château-Laurent. Voilà. Et je pense que la mode, effectivement, la parure décorative, vestimentaire, hein, le parfum, c'est un levier pour nous très important en termes de compréhension du lieu et de restitution au public.
Alors, le château, il est ouvert au public sur l'année du 1er mars au 17 décembre. Il est accessible gratuitement toute l'année sur la partie du jardin historique parce qu'on a un environnement en fait, qu'on souhaite mettre à disposition du public pour que ça devienne un lieu de vie. Donc notre objectif, il est de créer une programmation à l'extérieur, dans le jardin, avec notamment cet été des ateliers de lecture, une sorte de médiathèque déconcentrée autour de sujets comme la botanique, l'Égypte, voilà, plein de choses, voilà, avec des animations pour les enfants, les familles, des petits parcours, voilà, donc des choses qui soient simples, juste pour passer un bon moment et flâner sur le lieu, parce qu'il est très beau. Et puis ensuite, il y a des visites organisées un petit peu comme des séances de cinéma. Donc, il y a des départs de visites, voilà. Et donc, on choisit sa séance, soit sur le site internet, soit directement à l'accueil. Pour organiser au mieux, c'est mieux de le faire sur internet parce qu'on est sûr d'avoir des places. On connaît son heure de visite et on peut s'organiser. Après, c'est comme on veut. Et puis, il y a plusieurs types de visites différentes. Il y a des visites différentes en termes de durée. Pour les plus pressés, il y a des visites qui durent une petite demi-heure jusqu'à une heure, puis une heure et demie. Tous les jours, on a une visite un peu qu'on appelle une visite émotion qui permet vraiment d'aller en profondeur dans le lieu et de visiter tous les espaces qui ne sont pas ouverts tout le temps au public. Parce qu'il y a des problématiques de conservation, notamment dans l'appartement privé du propriétaire, qui est très fragile et ne peut pas, pour des questions de conservation, être pratiqué par tout le monde. Donc voilà, on a une seule visite par jour, donc elle est très souvent pleine. Les gens sont pleins, mais bon, c'est comme ça, on doit faire un équilibre. Et puis ensuite, on a des visites thématiques. Donc des visites thématiques, soit plutôt à connotation historique, des visites plutôt orientées sur l'architecture, les techniques, les sciences mises au service du projet. Donc toute la campagne de restauration, toutes les innovations qu'il y a eu dans ce bâtiment, qui sont assez nombreuses. Voilà, c'est une visite très garçon, je sais. Et ensuite, on a une nouvelle visite là qu'on est en train de produire autour de l'égyptomanie et des symboles qui sont très nombreux puisque c'est un lieu qui, malgré tout, est très spirituel. Voilà.